Vous êtes bien sur RFI, il est tout juste 14h30 à Paris, tout de suite Afrique Midi, présenté par Paul Loncin-Spinelli. Bonjour Paul.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Il était l'une des deux voix qui faisait rayonner la musique malienne sur toute la planète. Amadou Bagayoko, partenaire de Mariam Doumbia, du duo Amadou et Mariam, s'est éteint hier, il avait 70 ans. On va longuement revenir dans Afrique Midi sur la carrière du chanteur et les réactions que cette annonce a suscité parmi les connaisseurs de la musique africaine. En République démocratique du Congo, une semaine après avoir pris la décision de fusionner les processus de Luanda et de Nairobi, 4 des 5 facilitateurs désignés par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est et de la SADC ont pris part à une réunion virtuelle. Patient Ligodi sera en studio avec nous pour en parler. En Côte d'Ivoire, à l'approche de la présidentielle d'octobre prochain, le PDCI se réunit à Yamoussoukro pour décider de la date de la convention d'investiture. On sera en direct d'Abidjan avec notre correspondante permanente Binta Diagne. Et puis nous reviendrons aussi sur ces attaques meurtrières hier jeudi dans l'ouest du Burkina Faso. Plusieurs dizaines de villageois ont été tués dans des attaques successives d'un groupe armé.
Il y a des jours de bonheur, il y a des jours de malheur, il y a des moments de plaisir.
Le Mali s'est réveillé ce matin orphelin de cette voix reconnaissable entre mille, Amadou Bagayoko, membre du légendaire duo Amadou et Mariam, est décédé hier, il avait 70 ans. Écoutez l'hommage plein d'émotions que lui rend aujourd'hui Maury Touré, correspondant à Bamako de notre émission Couleur Tropicale.
Depuis presque une quarantaine d'années, Amadou fait briller le Mali à travers ce couple mythique qu'on appelle Amadou et Mariam. Depuis l'INA, l'Institut National des Aveugles de Bamako, son passage à Abidjan, et aujourd'hui sur la scène internationale, Amadou est resté discret, mais il est resté cet artiste, magnifique artiste, qui a sillonné le monde, qui a eu des lauriers, des distinctions partout. La perte d'Amadou est une symphonie inachevée. Parce qu'il y a cela quelques jours, on voyait encore ces dates dans le monde entier qui tombaient, que ce soit le Canada, les États-Unis, l'Amérique, l'Europe. Amadou est parti trop tôt. Il est parti trop tôt. Et mes condoléances encore à Mariam. Elle a vraiment besoin de nous pour que nous puissions être à ses côtés, pour qu'elle puisse surmonter cette difficulté. Que l'âme d'Amadou me repose en paix. Il fut un grand. Et il restera un grand artiste.
Les mots de Maury Touré, Amadou Bagayoko, un monument donc de la chanson malienne qui laisse derrière lui une carrière partagée avec sa partenaire Mariam Doumbia. Un titre, évidemment, Carmen Lunsman va faire entrer leur parcours dans une nouvelle dimension.
Il est né un dimanche à Bamako en 1954. 50 ans après, c'est devenu la chanson titre d'un album produit avec Mano Chao qui propulse Amadou Bagayoko sur le devant de la scène internationale. Ce succès planétaire n'aurait pas été possible sans Mariam Doumbia. Le couple s'est rencontré dans les années 70 à l'Institut des Jeunes Aveugles. Elle a 18 ans, lui 21 et un bagage instrumental important, ayant commencé les percussions à l'âge de 2 ans avant de se tourner vers l'harmonica, la flûte et finalement la guitare, son instrument de prédilection. Les deux aveugles passionnés de musique deviennent inséparables sur scène et dans la ville. Ils se marient en 1980 et deviennent Amadou et Mariam. Après un long début de carrière en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire, le duo s'impose avec Mon amour, ma chérie à la fin des années 90, puis enchaîne les tournées, les collaborations et les distinctions, dont deux victoires de la musique. Le dernier concert marquant de ces ambassadeurs de la culture malienne et des causes humanitaires est celui de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris l'année dernière. Ils y interprètent « Je suis venu te dire que je m'en vais » de Serge Gainsbourg, une performance qui restera gravée dans les mémoires.
Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais.
Carmen Lunsman, Amadou Bagayoko et Mariam Doumbia qui ont donc fait rayonner cette musique malienne bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Pour la star congolaise Lokwa Kanza, qui est actuellement à Abidjan en Côte d'Ivoire pour un concert, l'art africain perd l'un de ses grands représentants. Écoutez.
On a eu à se rencontrer plusieurs fois, je connais leur fille. C'est des gens que je connaissais de tout près, je connais la famille en fait. Et la nouvelle m'a un peu bouleversé. Bon. Et c'est des gens très très gentils, très talentueux mais à la fois très humbles.
Et selon vous, qu'est-ce que l'on peut retenir de l'héritage musical d'Amadou Bakayoko?
Je dirais la finesse, la douceur dans les mélodies, et c'est un excellent guitariste. Quelqu'un qui a su allier toutes ces choses-là sans peur, avec beaucoup de délicatesse, et c'est une partie qu'on peut leur reconnaître.
Le chanteur congolais Lokua Kanza. Dans l'est de la République démocratique du Congo, à présent, les FARDC consolident leur position à Walikale Centre. Les rebelles de la FCM-23, eux, se replient pendant ce temps plus à l'est vers le territoire de Massissi. En parallèle, les efforts diplomatiques ne se relâchent pas pour tenter d'aboutir à une issue dans ce conflit. Patient Ligodi, bonjour.
Bonjour Paul.
Une semaine après avoir pris la décision de fusionner les processus de Luanda et de Nairobi, 4 des 5 facilitateurs désignés par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est et de la SADC ont pris part à une réunion virtuelle.
C'est le 1er avril que s'est tenue cette première réunion virtuelle. Elle devait être co-présidée par William Ruto et Emmerson Mnangagwa. Mais finalement, seul William Ruto a présidé les échanges. Le président zimbabwéen était absent. Autour de la table, les co-facilitateurs désignés par l'UAC et la SADC, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta, il y avait aussi l'ex-présidente éthiopienne Saleh Workozede et l'ancienne présidente centrafricaine Catherine Samba Panza. En revanche, le sud-africain Palema Motlanthe, annoncé comme cinquième co-facilitateur, n'était pas présent. Selon plusieurs sources, il aurait décliné l'invitation. D'autres sources expliquent que ces derniers n'avaient pas encore donné son accord pour rejoindre officiellement le panel. D'autres encore évoquent des problèmes de santé.
Patient, que faut-il retenir de cette première réunion?
Les échanges ont porté principalement sur la mise en œuvre de la feuille de route adoptée le 24 mars par les chefs d'État de la région. Il a également été question des logistiques et des financements. D'après les informations d'RFI, le Kenya a proposé d'offrir un cadre opérationnel. Les facilitateurs pourront donc se déployer depuis Nairobi. Prochaine étape, les 4 facilitateurs doivent désormais établir un premier contact avec les autorités de Kinshasa et de Kigali. Objectif affiché, lancer un nouveau cycle de dialogue direct entre les 2 capitales. Mais en parallèle, un autre processus reste en cours. C'est celui mené par le Qatar à Doha. Après le premier round de la semaine dernière, les délégations de la FCM-23 et du gouvernement congolais devait y retourner une semaine plus tard. Mais à ce stade, aucune invitation officielle n'a encore été envoyée et les détails logistiques restent à préciser.
Merci beaucoup, patient Ligodi. En Côte d'Ivoire, le PDCI affûte sa stratégie à l'approche de la présidentielle d'octobre. Le parti tient son bureau politique à Yamoussoukro pour décider de la date de convention d'investiture. Binta Diagne, vous êtes à la fondation Félix Houphouët-Boigny. C'est là où vient de démarrer ce rendez-vous. Dans quelle ambiance cette réunion se tient-elle?
Alors, comme chaque grande réunion du PDCI, ça a démarré par une libation, ensuite l'hymne national a été joué. Tous les cadres du parti sont là, tous, sauf Tidiane Thiam, le président du parti, qui est actuellement en Europe depuis quelques semaines. Il serait retenu pour des raisons d'état-major, a indiqué le professeur Kopli Boni à l'ouverture des travaux. Tidiane Thiam ne veut pas se retrouver dans une situation de non-retour, affirme un cadre du PDCI. En clair, selon cette source, Tidiane Thiam craint que l'on lui mette des bâtons dans les roues en vue de sa candidature. Pour rappel, Tidiane Thiam a renoncé tout récemment à sa nationalité française pour remplir les conditions d'éligibilité à la présidentielle d'octobre, mais une action judiciaire est en cours. Elle émane d'une militante du PDCI qui demande sa suspension à la tête du parti. Dans tous les cas, les travaux ont tout de même pu démarrer. C'est Sylvestre Emou, le secrétaire exécutif du parti, qui anime actuellement ce bureau politique.
Merci Binta Diagne, correspondante permanente d'RFI en Côte d'Ivoire. Un entretien fleuve avec la presse sénégalaise pour marquer une année passée au pouvoir. Hier soir, Bassirou Diomaye Faye a notamment déclaré que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont quitté la CEDEAO en janvier, sont libres de leur choix, assurant avoir tout fait pour les faire revenir au sein de l'organisation sous-régionale. Durant ce face-à-face en Wolof de plus de 3 heures avec la demi-douzaine de journalistes présents, le président Faye a également été interrogé sur d'éventuelles poursuites contre l'ancien président Macky Sall, Birahim Touré.
Le président sénégalais a cité le nom de l'ancien chef d'État qui, selon lui, est injusticiable comme tout autre sénégalais et répondra si la justice l'exige de faits qui pourraient le concerner ou ses collaborateurs. Je le cite, Macky Sall, à qui j'ai même prêté l'avion présidentiel pour aller à la Mecque, tente des choses, mais je ne lui en veux pas personnellement. Bassirou Diomaye Faye de rappeler cependant que seule la justice a le droit d'entendre toute personnalité mise en cause dans des faits répréhensibles. Le Sénégal a été résisté résilient durant des moments de trouble et a su se relever même si les séquelles d'une mauvaise gestion, tant au plan économique qu'au social, sont encore là. Sur le projet de loi portant relecture de la loi d'amnistie, le chef de l'État sénégalais soutient qu'il sera promulgué pour la vérité sur les victimes et les commanditaires des événements préélectoraux de 2021 à 2024. La justice prendra le temps qu'il faudra pour faire toute la lumière sur ces événements, malgré une hâte manifeste de certains. Bassirou Diomaye Faye annonce par ailleurs plusieurs réformes en cours d'étude, dont celle institutionnelle avec plus de pouvoir au Premier ministre Ousmane Sonko. Birahim Touré, Dakar, RFI.
À l'ouest du Burkina Faso, la province de Sourou, endeuillée par la mort de plusieurs dizaines de villageois lors d'attaques menées jeudi par un groupe armé. Pour la plupart, les victimes étaient des jeunes qui avaient rejoint les rangs des volontaires pour la défense de la patrie. Trois villages au total ont été pris d'assaut quelques jours seulement après une opération militaire dans la région. D'après plusieurs témoignages recueillis, les hommes armés seraient revenus s'en prendre aux populations civiles après le départ de l'armée. Amélie Tulé.
Selon ces témoignages, les hommes armés ont pris d'assaut les villages de Di, Guédougou et Landfiera dans la province du Sourou jeudi, en fin d'après-midi. Un rescapé du village de Guédougou raconte « Les terroristes ont investi le village, il y a eu beaucoup de morts. Le bilan pourrait avoisiner les 200 morts », ajoute-t-il. Toujours selon un rescapé, des dizaines de personnes ont été enlevées, pour la plupart des jeunes qui avaient rejoint les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Une station de pompage d'eau et les infrastructures de plusieurs villages ont également été détruites. Ces attaques ont eu lieu quelques jours après une vaste opération nommée Tourbillon, menée par les forces armées burkinabées dans la région et qui avait permis de repousser ces hommes armés jusqu'à la frontière malienne. Une opération qui aurait brisé, selon les villageois, un pacte de non-agression entre groupes armés et civils. Toujours, selon les villageois, les habitants auraient demandé aux soldats qu'ils restent dans la zone, craignant des représailles de la part de ce groupe armé.
Récit d'Amélie Tulé. Il y a un mois, jour pour jour, Olivier Monodji était arrêté au Tchad. Le journaliste, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, et également l'un des correspondants d'RFI dans le pays, était interpellé en compagnie notamment de deux autres journalistes tchadiens avant d'être inculpé puis écroué pour intelligence avec une puissance étrangère, allusion à la Russie, pour ses écrits dans son journal. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de basket africain. C'est le début aujourd'hui de la conférence Kalahari. Il s'agit de la première des trois phases de groupe dans cette cinquième saison de la Basketball Africa League. L'événement se déroule à Rabat jusqu'au 13 avril avec 12 matchs au programme. Quatre équipes sont engagées, elles vont s'affronter deux fois. Et parmi les participants, il y a notamment le Stade malien. Mathias Reynal a assisté à leur dernier entraînement. Reportage.
Logo rouge et bleu de la balle, la Basketball Africa League, écran géant, dans la salle couverte du complexe sportif Moulay Abdallah, flotte comme un air de NBA. Sur le parquet entre joueurs de la même équipe, on ne se fait pas de cadeau à quelques heures du début de la conférence Kalahari.
C'est notre dernier entraînement, il faut essayer de mettre les paquets juste pour bien débuter le tournoi.
À seulement 21 ans, Mahamane Koulibaly est le capitaine du Stade malien.
L'objectif déjà c'est de pouvoir gagner notre ticket, l'un des deux tickets de la qualification pour les playoffs. On va disputer nos matchs très concentrés.
Depuis un an, Boubacar Kanouté est le coach du Stade malien. L'année dernière, il a préféré ne pas participer à la balle pour mieux préparer l'édition 2025.
Vous venez voir l'entraînement, c'était agressif. L'équipe se prépare sereinement depuis Bamako. On est des outsiders, on est tout le temps des outsiders. On a une équipe très jeune, mais je pense que on va créer la surprise.
Si le Stade malien est un outsider, ce n'est pas un inconnu. En 2023, il avait fini troisième de la Basketball Africa League. Mathias Reynal, de retour de Rabat, RFI.
Et pour le match d'ouverture, le Stade malien affronte aujourd'hui les Rivers Hoopers du Nigeria. Coup d'envoi à 15h, temps universel. Et puis un petit mot pour vous dire que ce samedi à 22h10, heure de Paris, 20h10, TU dans Musique du Monde, Laurence Alloir vous invite au concert du maestro de la Kora Balaké Sissoko et du songwriter Pierce Faccini, enregistré par RFI à la Philharmonie de Paris. Au programme des 15 prochaines minutes sur Radio France Internationale, la une de nos confrères de Jeune Afrique consacrée cette semaine au Niger et à la mainmise des militaires sur le pouvoir. Une charte de la refondation a été adoptée la semaine dernière dans cette optique. Le directeur de la rédaction de JA répond, François Soudan répond aux questions de Catherine Poté. Ce drame qui a fait beaucoup de bruit en RDC également au sommaire alors qu'il rappelait le code de la route à la garde rapprochée de la première ministre Judith Suminwa. Le brigadier Fiston Kabeya a été tabassé à mort, c'était la semaine dernière. Jean-Baptiste Placard revient sur cette polémique. Et puis le musicien brésilien João Selva a confié son mot fétiche à Lucie Boutelou à découvrir en fin d'édition. À l'heure de vous faire découvrir la une de Jeune Afrique, cette semaine, le magazine se penche sur les dernières mesures qui consolident l'assise de la junte nigérienne. Pour en parler, François Soudan, directeur de la rédaction de JA, répond aux questions de Catherine Poté.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Pour Jeune Afrique, cette charte fait office d'exemple pour le Burkina et le Mali, les partenaires du Niger au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel.
Alors, le Niger, c'est le dernier venu dans la liste des coups d'État militaires au Sahel, mais il est le pays qui, en moins de 2 ans, est parvenu à institutionnaliser le modèle, je dirais, putscho-souverainiste le plus radical. La charte nationale qui a été promulguée le 26 mars par le général Tiani est à ce sujet tout à fait éclairante. D'abord, de facto, il n'y a plus d'élections. En fonction du mandat exceptionnel qu'il s'est octroyé, le général Tiani a été proclamé président pour une période de 5 ans renouvelable indéfiniment, puisque son extension dépendra non pas d'élections, mais du bon vouloir de la junte en fonction de sa propre évaluation de la situation, notamment sécuritaire. Même si là aussi, il n'existe pas de calendrier électoral défini, le Mali, le Burkina ne sont pas encore allés aussi loin. Ensuite, il n'y a plus de partis politiques. Certes, les partis sont interdits d'activité au Burkina, ils ont été réautorisés sous condition l'an dernier au Mali, mais au Niger, ils ont été purement et simplement dissous. Donc, plus d'élections, plus de partis, un président qualifié par ses turiféraires de héros national, de militaire providentiel, de défenseur protecteur du peuple. Tout ça rappelle beaucoup le modèle des dynamiques qui prévalait au Niger jusqu'à la fin des années 80, Catherine, un bond de 35 ans en arrière.
Oui, un modèle qui pèse aussi sur la société civile nigérienne.
Oui, le régime nigérien est là aussi le pays le plus avancé de l'AES dans l'entreprise, je dirais, de satellisation de la société civile, avec la division de cette dernière en 2 camps, les patriotes d'une part, les apatrides de l'autre. Le CNSP, la junte au pouvoir, qui considère la politique comme une sorte de guerre larvée, a créé un fichier des personnes impliquées dans des activités de terrorisme dont le spectre est extrêmement large, puisqu'il criminalise le simple partage d'informations décrétées comme sensibles sur les réseaux sociaux, et même le fait de communiquer avec un pays tiers considéré comme ennemi, en particulier la France. Et puis Catherine, et même si une 50aine de détenus depuis le putsch de juillet 2023 ont été libérés le 1er avril, impossible d'oublier que Mohamed Bazoum, son épouse, sont toujours séquestrés depuis plus de 20 mois, tout comme l'ex-ministre de l'Intérieur Amassoulé, et qu'une 20aine d'opposants ont été déchus leur nationalité, ce qui là aussi est une première dans la région.
De là à parler d'une révolution réactionnaire actuellement à l'œuvre au Sahel, il n'y a qu'un pas que vous franchissez sans hésiter, François Soudan.
Alors c'est un qualifiant que j'emprunte au politologue nigérien Raman Idrissa et qui me paraît très juste. Quand le capitaine Ibrahim Traoré dit « nous sommes en révolution, nous ne sommes pas en démocratie », il résume très bien les choses. C'est une révolution dont les auteurs, les militaires, habillent leur captation du pouvoir et de ses ressources par un langage anti-impérialiste et qui s'appuie non pas sur les forces progressistes de la société, mais sur les couches les plus conservatrices et réactionnaires, qu'elles soient coutumières, traditionnalistes ou wahhabites, salafistes. Le progrès sociétal, la lutte contre les castes, pour le droit des femmes, des minorités ethniques, tout ce qui concerne la santé reproductive, par exemple l'environnement, tout cela est complètement délaissé, voire rejeté, au nom du retour aux valeurs socioculturelles traditionnelles. Les dialogues nationaux qui se sont déroulés dans les 3 pays de l'AES sont en quelque sorte des répliques inversées des conférences nationales des années 90. Là où ces dernières avaient débouché sur la fin des dictatures et l'instauration du multipartisme, leur réplique actuelle consacre le retour aux États de non-droit. Après tout, Catherine, on peut voir ça comme une sorte d'inclusion dans la mondialisation version Trump ou Poutine. Eux non plus n'ont que faire des valeurs libérales et humanistes.
Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, au téléphone avec Catherine Poté. RFI, midi 49, TU, les principaux titres à la une ce samedi 5 avril. D'abord, cette nouvelle salve de droits de douane décidée par l'administration de Donald Trump, 10%, un plancher universel applicable à tous les produits importés de l'étranger vers les États-Unis. Certains biens sont exemptés comme le pétrole, le gaz ou encore les semi-conducteurs. Acier, aluminium et voitures ne sont pas non plus concernés par cette annonce, mais ces trois produits sont déjà visés par des taxes de 25%. Un nouveau bilan qui s'élève à plus de 3300 morts en Birmanie après le séisme du 28 mars, chiffre publié par les autorités ce samedi. Selon les Nations Unies, cette fois, ce sont plus de 3 millions de personnes qui ont été affectées par la catastrophe. Et puis en Corée du Sud, des milliers de personnes sont descendues ce samedi dans les rues de Séoul pour protester contre la destitution de l'ex-président Yoon Suk-yeol. Décision prise la veille par la Cour constitutionnelle pour sanctionner sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. C'était début décembre. Une absence de civisme sur la route qui a viré au drame en RDC. La semaine dernière, le brigadier Fiston Kabeya est au travail. Il fait la circulation alors que les grands axes de Kinshasa sont noyés sous les bouchons. C'est alors que la garde rapprochée de la première ministre s'engage à contresens sur un boulevard. Le policier rappelle à l'ordre le cortège. S'ensuit cette scène extrêmement violente. Fiston Kabeya est roué de coups, embarqué par la garde rapprochée de Judith Souminois. Il décède mardi dernier. En réaction, la première ministre exprime, je cite, son profond regret. Le pouvoir semble vouloir dédramatiser. L'histoire engendre une vive polémique en RDC. Jean-Baptiste Placa, à quoi faut-il s'attendre désormais ?
Au rythme auquel de tels scandales se succèdent dans ce pays, il serait vain d'espérer une révolution durable des mœurs. L'opinion sera bientôt captivée par un autre de ces drames à répétition qui rythment la vie des Congolais et dont cette délinquance routière d'État n'aura été qu'un triste épisode de plus. Par contre, l'expédition punitive de l'escorte de la première ministre choque d'autant plus que, après la brève altercation verbale avec les gardes, Fiston Kabeya et ses collègues avaient aidé le cortège à s'extirper des embouteillages. Mais une fois leur patronne déposée à destination, ces gardes sont revenus violenter l'insolent agent. Comme si dans cette nation, l'entourage de chaque détenteur d'une once de pouvoir politique se croyait habilité à décréter quel comportement relève du crime de lèse-majesté et comment le punir. Convaincus de leur impunité, ils se vautrent donc tous dans la violation des droits des autres.
Mais alors comment expliquer un tel niveau de violence de la part de l'escorte d'une première ministre ?
Il y a dans les rapports qu'entretient le pouvoir avec les populations dans de nombreux pays africains une charge de brutalité qui remonte à la colonisation. Le colonisateur supportait mal la contestation, encore moins la rébellion qu'il réprimait violemment. À l'indépendance, cette propension à brutaliser s'est perpétuée avec certains dirigeants des jeunes nations. Au Cameroun, par exemple, il y a eu transmission à travers la répression des maquis de l'UPC, comme une passation de service sur l'art de réprimer. Pour écraser les populations, le pouvoir colonial s'appuyait essentiellement sur la soldatesque africaine, base des futures armées nationales. Au camp de Tiaroy, les Blancs n'étaient pas seuls à massacrer les tirailleurs réclamant leur dû. En Guinée, où Sékou Touré faisait torturer et mettre à mort les ennemis réels ou supposés de son régime, le camp Boiro était tenu par des nationaux. Mais leur fonctionnement était calqué sur ce qui se faisait sous la colonisation. De cette violence coloniale, Aimé Césaire disait qu'elle décivilisait le colonisateur, l'abrutissait, le réveillait aux instincts enfouis à la convoitise. Et c'est pour mettre en garde contre la perpétuation de cette violence qu'il écrivait que les dirigeants africains ne devaient pas considérer l'indépendance comme l'occasion pour eux de venir en lieu et place du blanc, faire le blanc sur le dos de leurs frères noirs. Ce que l'escorte de la première ministre a fait subir à Fiston Kabeya rappelle en tout point les brimades et les violences de la colonisation belge dans ce même Congo.
C'est une lecture d'une grande tristesse, Jean-Baptiste.
Chaque dépositaire de l'autorité croit, hélas, incarner, personnifier le peuple et supporte mal toute remise en cause. Et le matamore de l'entourage d'un premier ministre se prend pour le premier ministre des matamores. Plus ils sont intellectuellement limités, plus ils se laissent griser par le sentiment de puissance. Or, dans cet environnement de népotisme généralisé, si Fiston Kabeya avait été le cousin d'un ministre, il serait peut-être de ceux qui roulent impunément à contresens et se pavanent comme s'ils étaient des génies, avec ce réflexe de brute propre à ceux qui aiment persécuter les gens qui leur semblent en position de faiblesse. Cette fin tragique de Fiston Kabeya rappelle que les allées du pouvoir pullulent de gens dangereusement primaires. Le fait qu'il gravite autour d'un chef d'État ou d'un premier ministre n'y change rien. C'est dur à entendre, mais dans nombre d'États africains, la proximité avec le pouvoir pousse beaucoup à se croire omnipotent, avec droit de vie ou de mort sur tout citoyen qui s'aviserait de les défier. C'était aussi cela, le pouvoir colonial.
Merci Jean-Baptiste. C'était Jean-Baptiste Placa. La puissance des mots et la rencontre des amoureux de la langue française avec ces termes qui leur sont chers. C'est l'heure de votre chronique, un mot, une histoire avec Lucie Bouteloup.
C'est un mot qui génère du mouvement, qui nous invite à transcender nos limitations et qui à la fois révèle un moment un peu unique et singulier.
Il vous suffit de l'écouter pour voir la vie en couleur. Trois albums déjà que João Selva, chanteur et guitariste brésilien, mais français d'adoption, nous enchante avec sa samba matinée de funk, de soul, de jazz et aussi de rythmes africains. Avec Onda, son dernier opus, impossible de ne pas se laisser gagner par sa joie de vivre communicative, la preuve avec le mot dont il a choisi de nous parler pour cet épisode.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du mot « danse ». Déjà parce que c'est un mot qui sonne bien, c'est un mot qui pourrait presque être de l'espéranto, hein, puisqu'en portugais c'est danse, en français danse, en allemand danse, en anglais dance, et donc c'est un mot qui résonne aussi de part et d'autre de l'Atlantique, et ça me touche, et c'est un mot qui a du mouvement dans la manière comment il sonne, il percute, danse. Quand on a un tambour par exemple qui est frappé, on a ce premier son de l'attaque, le ton, ici ce serait le dé, et ensuite on a cette résonance, danse, danse, et pour moi ça rappelle le tambour, et c'est Nana Vasconcelos, un grand musicien brésilien, qui disait que le tambour était le nombril du monde, et effectivement c'est notre premier langage, les percussions corporelles, ce qu'on tapait, et donc dans danse il y a ça pour moi, dans ce mot, il y a cette frappe et cette résonance qui s'étend jusqu'à l'infini.
Et puis João Selva, dans votre dernier album, vous avez un titre, c'est le seul en français, qui s'intitule « Viens danser ». Donc la danse vous a inspiré votre première chanson en français.
Oui, c'est venu naturellement. Des fois, en écrivant les chansons, on a les textes qui viennent en premier. Des fois, c'est une mélodie. Des fois, c'est une harmonie. Des fois, c'est un phrasé. Et là, pour le coup, c'était une sorte de yaourt, comme ça. Et le yaourt s'est transformé naturellement en « Viens danser ». Et donc, une fois que ça s'était fait, et ben, voilà, ça m'a poussé à écrire tout le couplet en français. C'est une chanson au départ qui dit en fait, quand ça va pas, quand on a ces murailles qu'on n'arrive pas à transposer, et ben c'est à ce moment-là qu'il faut danser. Et pour moi, qui réside ici, c'était important que le public francophone puisse saisir le message. Après, j'avoue que chanter en français, c'est pas facile pour moi de faire sonner cette langue malgré toutes ces années où je réside ici. Et donc, j'ai invité Claire Vincent à venir interpréter cette chanson avec moi et je suis très content du résultat final.
Selon le dictionnaire de l'Académie française, le mot « danse » désigne un mouvement du corps et un enchaînement de pas exécutés en cadence, ordinairement au son d'instruments de musique.
C'était un mot, une histoire, une chronique avec le soutien de la délégation générale à la langue française.
La chronique de Lucie Bouteloup et João Selva et son album Onda, un artiste que vous pouvez retrouver en tournée en France et en Europe notamment avec une date au Festival Jazz sous les Pommiers à Coutances le 27 mai prochain. C'est la fin de cette édition d'Afrique Midi, à la réalisation Mickaël Goncalves, fabrication du journal Pierre Vallée et Karine Franck à la rédaction en chef. RFI, il est presque 15h à Paris.
Salut, c'est Assalfo. Et revoilà le FEMUA. La 17e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumambo vous attend du 15 au 20 avril prochain à Abidjan et Daloa sous le thème civisme et sécurité routière. Cette année, vous aurez Angélique Kidjo, Caris, Smarty, Takana Zion, José, Imra et plein d'autres artistes pour mettre l'ambiance. Le FEMUA, c'est aussi le volet social avec l'inauguration des écoles primaires Magic System de Badika, Jacquesville et San Pedro.
En partenariat avec RFI. Anoumambo
est béni. C'est ça qui est la vérité.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Parler, c'est vaincre la mort. Parler, c'est se dire « je suis en vie », nous dit Emiliane Moukansoro, rescapée du génocide des Tutsis. Institutrice, devenue l'une des premières psychologues au Rwanda, Emiliane Moukansoro répare les survivants en créant des groupes de parole avec les victimes et avec les bourreaux.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.